Pour les chrétiens, quelle urgence écologique! Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre l'intervention de Michel Rhode, théologien protestant laïque, rapporteur au synode protestant sur l'écologie. Il nous parle d'écologie intégrale, de conversion écologique, de sauvegarde de la création. Intervention enregistrée le 2 octobre 2021 lors de la journée œcuménique à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Pour les chrétiens, quelle urgence écologique! Michel Rhode.
Voilà, mais je suis très heureux d'être ici. C'est pas la première fois du tout. Ça m'était arrivé de commettre quelques exposés ici aussi. Voilà, j'espère ne pas amener une parole trop dissonante après le discours précédent. Alors, on est là, au bout de tant d'années de combats écologiques, après 38 ans du processus Justice, Paix, Sauvegarde de la Création auquel j'ai eu le bonheur de participer. On se réunissait avec des franciscains à Toulouse, c'était il y a 30 ans, et puis les grands penseurs de l'Église réformée un beau jour ont décidé que ça devait s'arrêter, l'affaire serait compliquée à expliquer. Bref, nous voilà 6 ans après l'encyclique Laudato Si. Nous voilà 11 ans après qu'on ait créé la commission Bible et création à l'intérieur de l'Église protestante unie de France, à laquelle j'ai participé et je participe encore. Les engagements, je vais m'arrêter un peu vite, mais c'est vrai que je fais partie de la revue protestante culturelle qui s'appelle Foi et Vie, dans laquelle Jacques Ellul m'avait invité à participer. Alors j'ai vilain défaut d'avoir été l'étudiant d'Ellul sur les bancs de Sciences Po, mais aussi étudiant surtout de ses études bibliques pendant 12 années, c'est pas rien. Et j'ai participé à faire paraître chez Laboret Fides l'an dernier un livre posthume qui s'appelle « Vivre, penser et vivre la liberté » qui est sorti l'an dernier. Alors, il y a ce côté-là, je suis prédicateur laïque de temps en temps, rapporteur au synode qui était sur le thème de l'écologie. Et alors nous, Église protestante unie de France, nous n'avons pas quelque chose de bien ficelé parce que c'est le synode national dans un mois qui va établir quelque chose, un texte qui fera référence, j'espère, sur le problème de l'écologie, parce que jusque-là, pour tout un tas de raisons, les problèmes de fond de l'écologie n'avaient pas été tranchés par l'Église protestante. Alors, j'ai écrit de très méchantes choses dans la revue Foi et Vie, qui est disponible sur Internet, c'est en libre accès. Vous verrez ce que j'ai pu dire de très méchant et d'historique là-dessus. Alors, en même temps, je ne vais pas vous cacher que je suis encore engagé écologiquement. Je suis secrétaire de la CEPENSO 64. Alors, quand on entend parler du pétrole, ben oui, on se bat. Là, on vient de relancer un procès, 3 procès sur le pétrole de Lac. Un sur Vermillon qui s'amusait à cramer 20 000 mètres cubes de gaz par jour. Parce que ce qui les intéresse, c'est le pétrole. Alors, ils ramassent le pétrole, ils l'envoient sur Bayonne et ça part par bateau. Mais le gaz ne les intéresse pas, donc on torche avec quand même 15% d'H2S. Voilà. Donc, mais il y a 2 jours, on a relancé. Alors, là, il y a un niveau d'ajustement qui doit se faire entre les petits gestes, mais aussi les gestes utiles contre Sanofi, contre Total, contre Arkema, contre les gros pollueurs, contre les pêcheurs de l'estuaire et contre les pêcheurs professionnels, pêche aux engins qu'on a réussi à arrêter le 6 juillet, contre la décharge de 120 000 tonnes à Rébénac qui allait être installée dans une carrière de calcaire fissuré à 920 mètres, à 920 mètres de la résurgence qui s'appelle l'œil du Ness et qui alimente 100 000 habitants. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça. Alors, il faut s'y mettre à deux, trois, un avocat, une association qui est agréée pour l'environnement, qui donc peut aller devant les tribunaux. Mais il y a ça aussi dans mon quotidien, excusez-moi, mais voilà. Donc, on a fait bloquer, on a fait condamner le préfet à 4 ou 5 reprises dans les 6 derniers mois. Voilà. Donc, c'est un peu ça le quotidien. Voilà. Donc, la Cépanso a 50 ans, j'étais au début, elle y est encore. Et on a besoin de monde. Et on n'est que 200 dans le département. C'est une association qui refuse toute subvention pour être indépendant. On refuse toute subvention. Et la Cépanso Aquitaine. Elle a des subventions parce qu'elle gère des réserves naturelles. Donc on a ce côté, on gère des réserves naturelles, pour ça on reçoit beaucoup de subventions. Ce sont des réserves d'État avec des naturalistes, des gardes assermentés, etc. Bon, voilà. Donc je suis un peu marqué par ce genre de choses et en même temps je m'intéresse vivement aux problèmes théoriques, aux problèmes planétaires, au problème théologique où il n'y a aucune unité, je vous rassure tout de suite, ce qui, nous, protestants, ne nous dérange pas trop, et qui éventuellement peut faire avancer les choses, mais pas toujours. Alors, je crois que aujourd'hui, j'ai le bénéfice d'avoir eu un tableau de la situation assez catastrophique actuelle par Laura. Et donc, je n'ai pas à refaire toute ma première partie, ce qui va me permettre de faire seulement quelques commentaires. Mais en gros, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans un tournant de civilisation, un choc qui... Alors, je suis historien, plutôt géographe surtout, mais un tournant qui me paraît aussi brutal, aussi gros, aussi lourd que les débuts de la Première Guerre mondiale ou l'irruption de la bombe d'Hiroshima avec cette capacité dès lors de détruire toute vie sur la planète. On est à un tournant avec ce début, je dis bien, ce n'est qu'un début, mais un début d'effondrement des espèces qui a été bien expliqué avec ce changement climatique que l'on connaissait parfaitement, hein, dans Foi et Vie en 1974. Bon, Ellul m'avait demandé de faire la présentation, on avait toute la documentation. On expliquait déjà en 1974 que le réchauffement climatique, ça allait être 2%, que c'était catastrophique pour telle et telle raison. C'était parfaitement établi. Voilà. Donc, pendant des années, il n'y avait que quelques personnes qui hurlaient dans le désert, effectivement. Voilà. Et donc, on parlait, on disait, il y a les dégâts du progrès. C'était vécu par les gens qui travaillaient au complexe pétrochimique de Lac, par les ouvriers, comme, bon, mais ça polluait, bien sûr, il y avait ci, il y avait ça, mais c'était un retour des choses, voilà, il fallait faire avec, voilà. Mais en réalité, on est devant quelque chose de très grave. Dégâts du progrès, c'est un euphémisme. Il y a effectivement risque d'effondrement. Et on ne sait jamais, nous, il y a 20 ans, on croyait surtout que ça allait être la contamination nucléaire qui, par les chaînes alimentaires et l'air, allait être catastrophique. Bon, finalement, l'impact du climat maintenant devient absolument effroyable, y compris pour l'agriculture en Béarn et ailleurs. Voilà. Donc, ce problème d'écologie touche trois aspects. La qualité de la vie, les fondements même de la vie et notre attitude pour le respect de la vie. Alors, sur la situation planétaire, oui, il y a urgence. Alors, ce thème pour les chrétiens. Alors, les chrétiens, bon, mais nous, protestants, on pense souvent à Kierkegaard qui disait que c'était, que bien sûr, on avait à confesser le Christ, mais que ce n'était pas à nous de nous donner le titre de chrétien, mais seulement à Dieu le jour du jugement dernier. Bon, mais passons. Alors, urgence. Je critique tout, vous voyez, c'est abominable. Je critique votre intitulé, car je suis le mauvais élève, c'est très mal vu par les profs, ça. Alors, urgence, je dirais, oui, il y a urgence, et en même temps, on va le voir, il faut se lancer dans l'action. Mais se lancer dans l'action, peut-être pas comme il y a 40 ans, peut-être pas se dire que le problème, c'est de ramasser les papiers gras ou les plastiques le long des rivières, mais d'aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a tout ce qui ne se voit pas. Il y a les molécules extrêmement toxiques qui ne se voient pas, qui passent à travers les stations d'épuration. Il y a beaucoup d'éléments tout aussi nocifs. Il y a la chaîne alimentaire. Et lorsque... on a préparé le synode régional de l'Église protestante sur 44 paroisses, il y en a un certain nombre qui ont répondu, plus ou moins, et je voyais dans les réponses que certaines choses étaient bien connues, mais en même temps, le Français, quand on lui parle du nucléaire, il pense à Fukushima et Tchernobyl. Et dans les recours, moi je suis un affreux prof, je lis, mais il n'y a pas les 57 réacteurs nucléaires de EDF. Ça, ce n'est pas mentionné. C'est toujours chez l'autre que ça ne va pas. C'est toujours l'étranger qui pose problème. Hein. Alors, et puis il y a des choses qui sont inconnues, par exemple. Alors, les 40 000 morts supplémentaires, personnes qui meurent, qui ont leur vie raccourcie à cause de la pollution atmosphérique, c'est 40 000, 44 000 maintenant en France chaque année, 400 000 en Europe. Alors leur vie est raccourcie de 3 mois, de 6 mois, de 10 ans, ça dépend. Bon, mais ça a un impact, simplement la pollution atmosphérique. Ce que je ne vois pas, c'est par exemple, je n'ai pas eu trop peu l'augmentation des cancers, qui n'est pas due simplement à une meilleure détection, qui n'est pas due à des vies plus longues, qui est due à la contamination généralisée. Pensez quand même, vous avez eu des articles d'une demi-page dans le journal Le Monde, que on mesure les pesticides dans l'atmosphère des rues de Bordeaux. Dans les rues de Bordeaux, on mesure les pesticides venant de la viticulture. Et pendant ce temps, le gouvernement hésite pour savoir si on peut balancer les pesticides à 4 mètres, à 6 mètres ou à 10 mètres d'une clôture. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, la situation... Alors, les cancers professionnels, chiffre officiel, on estime que c'est entre 15 000 et 30 000. Mais ce que la Sécurité sociale identifie comme tel et va indemniser, enfin, va prendre en charge, c'est 1 700. Voilà. Alors qu'il y en a entre 18 000 et 40 000. Alors, il y a des tas de choses comme ça qui ne sont pas connues. Alors, il y a les registres du cancer par département. Nous, on n'en a pas dans le 64, il y en a dans le Tarn, il y en a à Bordeaux. Ce que l'on voit, c'est une augmentation des cancers chez les enfants qui grimpe de 1% par an. Et ça, ce n'est pas un meilleur diagnostic, mais ça augmente. L'augmentation de l'asthme qui continue. Et... pour l'agriculture, là c'est simple, parce que tous les agriculteurs, tous ceux qui sont inscrits à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, eux, ils sont encartés et on sait de quoi ils meurent. Alors, C'est le groupe cobaye. Je suis désolé, mais c'est le groupe cobaye. Et combien de fois je vais à des obsèques d'un agriculteur, on me dit, mais lui, c'est pas étonnant, il maniait les pesticides. Alors, vrai, faux, là, il faut faire très attention. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des tas d'études scientifiques qui montrent qu'il y a un certain nombre de types de cancers propres aux pesticides et à l'agriculture, les lymphomes, les cancers du cerveau, etc., etc. Je passe. Voilà. Donc, il y a bien des aspects comme ça qui sont assez peu connus quand on parle de du gaspillage de l'espace. Bon, je siège dans beaucoup de commissions, depuis le parc national, la commission d'environnement à la préfecture, la commission de lutte contre le gaspillage des terres agricoles et naturelles et forestières, NAFNAF. Alors la commission NAFNAF, le préfet nous sort un document là, pour notre département, c'est 9000 hectares qui ont été goudronnés, bétonnés en 15 ans. Hein. Et sur les 9000, il y en a 1000 qui ont été décrétés pour des industries ou des zones artisanales industrielles qui enlaidissent les entrées de ville, comme vous le savez. Voilà. Donc, c'est un peu ça la réalité aussi. Alors, la crise sociale, c'est aussi une crise de répartition des richesses, d'abord, bien sûr, on l'a vu évidemment avec la montée des gilets jaunes, d'un certain nombre de revendications. On voit qu'aujourd'hui, d'après les sondages, la première préoccupation, c'est le panier de la ménagère. Et je n'ai pas à critiquer, mais c'est vrai qu'on est dans une économie extrêmement, extrêmement dure pour les salariés et pour ceux qui ont un salaire. Et chaque innovation technique enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres. Et il y a une distorsion croissante entre les revenus du capital qui ont explosé pendant la pandémie. Ces revenus du CAC 40 ont explosé alors que le niveau de vie des salariés restait très faible. Voilà. Donc, c'est une crise qui n'est pas seulement une crise comme la crise économique de 1929 ou la crise des subprimes de 1989. C'est une crise qui est la crise d'un modèle, qui est une crise de civilisation et qui touche complètement, le modèle lui-même. Alors, le modèle lui-même, je ne vais pas vous refaire la démonstration de Jacques Ellul, mais si vous pensez qu'il y a un pilote dans l'avion, si vous pensez que l'économie est maîtrisée, si vous pensez que la machine économique mondiale, etc., et vous levez le doigt, et puis je m'inclinerai pour ma part. J'ai l'impression que la machine économique s'emballe, elle avance avec des choix qui sont des choix techniques quasi automatiques, c'est-à-dire quelle est l'innovation, l'invention qui va permettre de produire le plus, le plus vite, qui va être compatible avec les autres techniques et qui va pouvoir se diffuser, se connecter, s'interconnecter avec tout le reste et se diffuser sur la planète. Et c'est là que l'on investit, c'est là qu'il y a du profit, c'est là qu'il y a quelque chose qui va structurer complètement la société du futur. Alors ces choix, ils sont pratiquement automatiques, il y a une sorte d'auto-accroissement et il y a une unicité de la technique et un universalisme. Il se passe la même chose ici qu'au Japon, en Corée ou dans les pays de dictature ou les pays communistes. Il n'y a pas une civilisation différente, elle est une, unique, et c'est une société qui fonce en avant sans orientation particulièrement précise. C'est la course au PNB, et face aux grandes difficultés, cette société a beaucoup de mal à réagir et à réagir vite. On l'a vu à propos du climat, donc je n'ai pas à revenir dessus. Je mentionne simplement que pour ce qui est des énergies fossiles, la France a décidé de se passer des énergies fossiles. Ah oui, alors le système français, vous ne connaissez pas un système juridique français, c'est interdiction généralisée, mais dérogation généralisée. C'est-à-dire qu'on interdit un pesticide aux Antilles, le chlordécone, hein, qui est un organochloré dégueulasse. Bon, bien. Mais, exception, pour les Antilles, c'est bon. Voilà. Le pétrole, ah oui, mais pour l'ac, on continue comme avant. On peut continuer à pomper, et on pompe 350 000 mètres cubes de gaz par jour. Le pétrole, il y en a très peu, c'est dans le Vic-Bil, et donc on pompe le pétrole du Vic-Bil. Voilà. Un peu au nord, 40 km au nord. Alors, dans ces conditions-là, la place de l'homme, mais ce n'est pas la place de l'homme de 1920, ce n'est pas la place de l'homme de 1950. La technique n'est plus un outil. Avec cette vision bébête, on peut faire du bien ou on peut faire du mal avec l'outil, avec le nucléaire. Vous voyez, on peut soigner le cancer ou on peut balancer la bombe contre un adversaire. Bon, c'est pas si simple. Nous baignons dans une atmosphère de très technique. Nos connaissances des choses, ce sont des connaissances que nous avons non pas parce que nous visitons, nous allons voir, etc. Mais c'est ce que des techniciens peuvent nous dire. La connaissance que j'ai sur l'ac, certes, il y a les odeurs, ok. Mais à part ça, c'est des tableaux, des disquettes, des ordinateurs qui m'informent sur des dossiers, épais comme ça, etc. Il n'y a rien d'immédiat, comme c'était le cas autrefois, comme Bernard de Clairvaux, j'allais le citer moi aussi, c'est connu, hein, disait « J'apprends davantage par les forêts que dans les livres hein, ». Très, très belle phrase qui est connue. Mais ce n'est plus ça. Et donc l'homme actuel, mais, il ingère en moyenne, on le sait, 3 heures de télé par jour. Bon, les enfants, vous connaissez la situation des petits jeux et des écrans. Et on est tous devenus, par nos professions, de véritables techniciens. Alors, je ne dirais pas que les pasteurs sont devenus des communicants, sont forgés à la com, mais c'est vrai que, y compris dans les sciences humaines, on est devenus de super techniciens. Alors, l'homme contemporain face à la nature, il y a le paradoxe. Jamais on n'a autant célébré la beauté de la nature. Jamais on a en même temps à la fois pillé, bafoué la nature. Je peux vous dire que côté Pays Basque, c'est pas mal. Le béton avance, les promoteurs. Il y a quelques élus qui se retrouvent inéligibles pour 10 ans. On a affaire à quelques dossiers assez croquignolesques qui commencent à rappeler d'autres rivages de la Méditerranée. C'est pas mal. Je ferme une parenthèse. Ça, je ne l'avais pas écrit, c'est promis. Alors, on a souvent accusé, là je fais juste une petite parenthèse, la science moderne, on a souvent accusé aussi le christianisme parce qu'il a développé la liberté. Alors vous connaissez les thèses de l'Américain Lynn White, hein, serait responsable de la dégradation totale de la planète. Bon, je crois que c'est exagéré. Il est certain que le capitalisme, bon, les thèses de Max Weber sont en partie exactes, s'est développé dans l'Europe de l'Ouest avec la réforme plus vite que dans d'autres régions. D'accord, mais les Chinois ont inventé le billet de banque avant nous, ils ont inventé la poudre à canon avant nous, ils ont inventé la boussole avant nous. Et pour ce qui est de l'addiction à l'argent, à la spéculation, aux jeux de hasard, etc., et aux fric, ils sont bien meilleurs que nous. Et on va, croyez-moi, déguster là-dessus. Alors, on peut parler aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui, on dit que l'attitude de l'homme face à la nature, c'est la démesure, c'est l'hubris, avec le terme grec que l'on reprend, l'hubris, c'est un hubris, H-U-B-R-I-S, hein. Hubris, c'est-à-dire cette démesure qui a quelque chose du blasphème attentatoire, qui ne respecte plus rien, qui est sacrilège et qui massacre tout. Alors c'est vrai que l'homme a désacralisé la nature, on y reviendra au point de vue philosophique, et par contre, il sacralise ce qu'il a fait de ses mains, comme dirait la Bible. Et l'homme sacralise la technique, son travail, sa quête, et tout se passe comme si l'homme ne voulait rendre de compte à personne, ni à Dieu, ni aux générations futures, mais il veut développer sa technique. Alors il y a une ambiguïté de l'homme face à la nature. Si je reprends philosophiquement dans la nature, je renvoie aux meilleurs aux ouvrages, par exemple, de Pierre Hadot, qui est prof au Collège de France, hein, qui a écrit un bouquin célèbre sur Isis, la déesse de la nature. Dans l'Antiquité grecque, la nature... Phusis, Phoestai, c'est ce qui produit spontanément, ce qui croît, ce qui se développe. Mais la nature symbolisée par la déesse Isis, elle est toujours voilée. Elle est voilée car elle aime à se cacher, dit Héraclite. Et pour Platon, la nature, c'est quelque chose de dégradé, puisque c'est la faune, la flore, etc., le minéral, mais c'est quelque chose de concret. Seule l'idée pure est au-dessus de tout. Et alors, pour les hommes de l'Antiquité, la connaissance absolue, on ne doit pas trop y toucher. Alors, il y a un petit parallèle, évidemment, avec la Genèse. Mais on doit se méfier, on doit respecter, et évidemment, Prométhée, qui a voulu saisir le feu sacré, Icare, qui a voulu voler, sont quand même sévèrement punis par des supplices éternels. Donc, la désacralisation va être un peu progressive. Alors, tous les bouquins citent le moine franciscain Roger Bacon, qui va être condamné quand même à 15 ans de prison parce qu'il imagine des machines infernales pour combattre les étrangers. C'est pour la bonne cause, c'est combattre les impies. Alors, pour combattre les impies, il pense déjà à des miroirs convexes qui vont incendier les positions adverses. Il imagine des machines pour aller marcher au fond des océans. Donc, vous voyez le petit délire. Et il pense déjà, lui aussi, qu'un des siècles avant le transhumanisme, à prolonger la vie, à vivre éternellement. Alors, à la Renaissance, vous connaissez les phrases célèbres de Pic de la Mirandole, « Dieu n'a donné aucune borne, aucune limite à l'homme. C'est à l'homme de conquérir par son libre arbitre. » Et puis, on a celui qu'Emmanuel Kant a présenté ensuite comme le précurseur de l'empirisme, Francis Bacon, fin 16e. Laissons le genre humain recouvrer ses droits sur la nature, droits dont l'a doué la puissance divine. Donc, et il déclare, il faut mater la nature comme une femme publique. Voilà. Alors, vous connaissez la suite, vous connaissez Descartes se rendre comme maître et possesseur de la nature, hein, et Kepler, l'homme devient maître des œuvres de Dieu, et Newton dit que Dieu est un ingénieur à la retraite. Si Calvin avait entendu, Calvin insistait toujours sur le fait que Dieu agissait en permanence et que pas un oiseau ne peut perdre une plume sans que Dieu ne l'ait décidé. Voilà. Alors aujourd'hui, au 18e, sur les couvertures des livres de sciences naturelles, il y a toujours la déesse Isis. Mais là, elle est dévoilée. Ça y est, on a mis la main sur la science. Ensuite, c'est la philosophie scientiste qui croit qu'on va tout résoudre. J'aurai des tas de beaux textes à vous lire, mais pardon. Voilà. Alors, après ce survol, deuxième partie, d'où partons-nous ? D'où devons-nous partir pour cette urgence, ce problème écologique fondamental qui est quand même aujourd'hui le problème numéro un pour les habitants de cette planète. Alors, certes, ce problème de la création de la nature, les théologiens n'ont pratiquement pas parlé, 1920-1960, il n'y a pratiquement aucune publication, très peu. Est-ce qu'il faut construire une dogmatique sur la nature? Est-ce qu'il faut partir de la Genèse? En fait, nous aimons beaucoup partir de la Genèse. Alors, je connais très bien toutes les citations que l'on voit dans tous les bouquins d'écologie, théologie. Bon. En même temps, pour les Juifs, ce n'est pas ça le texte fondateur. Ce qui est fondateur, c'est surtout l'Exode, la sortie du pays d'Égypte, la terre promise, l'arrivée à la terre promise, etc. Et pour nous, c'est aussi la création nouvelle, c'est le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Donc attention quand même à ne pas tout mettre sur... voilà. Alors, les lectures littérales et fondamentalistes ont donné des horreurs qui sont connues quand même. Hein. Les calvinistes d'Afrique du Sud, en prenant la Genèse, Noé... condamne Cham à être esclave de ses frères car il a vu la nudité de son père. Les noirs sont nus, donc les noirs peuvent être condamnés à être esclaves. Voilà. Il y a des petits raccourcis comme ça qui sont bien. Alors, vous connaissez tous la révolte de Thomas Münzer, la révolte à l'époque de Luther, et puis Luther qui n'accepte pas les traités d'illuministes. Et fait condamner ces paysans révoltés qui, au nom même de versets bibliques, voulaient condamner l'inégalité et le servage. Et Luther les traite d'illuministes. Luther, évidemment, lui, il a les bonnes citations. Et la première citation, c'est de respecter l'ordre établi par Dieu. Même si cet ordre est injuste. Bon, je ne vais pas taper sur Luther comme ça, mais disons que l'unité face au problème de la justice, face au problème de la nature, il n'y a pas toujours eu unité. Bon, alors, nous marchons vers l'unité, je suis bien d'accord. Si vous voulez, pour certains royalistes, Louis XVI a été la figure même du Christ souffrant. Bon, et je passe, j'ai des tas d'autres exemples bien connus. Le Moyen-Âge, la théologie du Moyen-Âge était beaucoup plus souple peut-être qu'aujourd'hui, avec une lecture littérale, une lecture allégorique, le sens moral, le sens anagogique, c'est-à-dire le sens du futur, et puis le sens d'une situation, d'un texte sur l'au-delà et sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur les fins dernières. Alors, face à tout ça, nos églises ont quelques grosses difficultés pour tout engagement, parce que les courants sont contraires, parce que on va le voir dans nos synodes, chez nous, pauvres protestants, il y a des idées différentes. Alors que quand il y a des idées différentes, vous savez comment on fait, hein. Les synodes des pères de l'Église, on mettait des idées différentes, on a affirmé tout et son contraire, et on disait, ben oui, c'est comme ça, ça va ensemble, et hop, et ça passait. Bon, Aujourd'hui, on prend plutôt le plus petit dénominateur commun pour apaiser les choses. Bon, seulement à ce moment-là, mais on n'avance pas parce que si on n'a pas un texte de positionnement avec des positions fermes, c'est plus dur. Voilà. Donc, tout ça est assez difficile. Aujourd'hui, on sent que les églises sont très préoccupées. On l'a vu par la pandémie. D'abord, annoncer le salut. D'abord, réconforter, assurer la cohésion. Se limiter aux activités traditionnelles. Autrefois, c'était moraliser, contenir des sociétés qui étaient encore presque païennes. Et les prêtres, les églises ont eu un rôle d'apaisement. Donc, ce n'est pas facile. Alors, aujourd'hui, quelle inspiration biblique ? Alors, je voudrais juste redire une ou deux choses sur la Genèse. Bon, ce qu'on a à bien retenir de la Genèse, c'est que c'est vraiment Dieu. C'est Dieu seul qui crée, et par la seule parole, et par une parole d'amour. Et quand il est dit que l'homme doit être à l'image, c'est que l'homme doit refléter cet esprit d'amour. Et je ne vais pas redire combien cette création est une bénédiction, ça a été dit et bien dit. La nature, Calvin dira, la nature c'est le théâtre de la gloire de Dieu. Calvin disant, on a accès à Dieu par la lecture biblique, le Saint-Esprit, et par la contemplation de la nature. Voilà les deux éléments. Dans le récit de la création, il a bien été dit, cultiver et garder le jardin. Et là, il y a un point qui est un point d'achoppement où on n'est pas d'accord avec un certain nombre d'auteurs. C'est Genèse 2:2 qui a été bien cité. Il vit que cela était bon quand tout est achevé. Et dans Genèse 2, verset 2, la création est achevée. Et il n'est pas dit, on la remet à l'homme parce qu'elle est inachevée et l'homme est créateur et l'homme va faire quelque chose parce que ce n'est qu'une ébauche que le Seigneur a produite. Mais à partir du moment où il va y avoir le développement de l'industrie 18e, 19e, eh bien, par une sorte de concordisme avec l'esprit de l'époque, on réinterprète ces textes en disant la création n'est pas achevée, c'est à nous, les humains, de l'élaborer. Et aujourd'hui, il y a eu encore un théologien qui écrit de belles choses, mais quand même dans son bouquin, il a éprouvé le besoin de dire que nous étions co-créateurs. Ben non, je ne suis pas co-créateur, nous sommes des créatures. Voilà. Et la création amorce l'histoire d'une relation souvent difficile entre Dieu et les hommes. Il y a la première bénédiction, et puis après, l'homme, il est chassé de l'Éden, et ça, on l'oublie. Et alors, cette malédiction, cette faiblesse de l'homme chassé, ça, on la voit pas trop. Voilà. Et pourtant, il y a toute une histoire qui va se faire avec la nouvelle alliance avec Noé, puis la nouvelle alliance en Jésus-Christ, et c'est une histoire qui est faite de dialogue. C'est cela que l'on retient, mais c'est pas un livre de morale, c'est un livre de questions. C'est Dieu qui nous questionne. C'est ainsi que, à la suite de beaucoup, je vois les choses. Où es-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Nous sommes questionnés, et ce qui nous est demandé, c'est écoute, écoute Israël, vous connaissez. Alors, je dirais juste une ou deux choses sur la chute, sur le mal, parce que dans cette préparation de synode sur l'écologie, j'ai trouvé que, alors que nous sommes face à l'absurde d'une société qui se développe et puis qui se détruit elle-même, le problème du mal, le mal, mal, Mais on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus? Mais parce qu'aujourd'hui, il faut être positif. Hein, il faut être résilient, il faut être conciliant, il faut être... voilà, hein, c'est, on vit dans une époque marquée par le principe de plaisir qui l'emporte absolument sur le principe de réalité. Dire à quelqu'un « non, c'est pas possible parce qu'il y a ça, ça et ça, et donc on doit se comporter comme ci et comme ça », c'est insupportable. C'est insupportable. Et on pourrait donner des exemples, mais voilà. Donc, l'homme est chassé de l'enclos, de l'Éden. Il découvre quoi? Il croyait découvrir la connaissance absolue. Mais non, il n'a pas la connaissance. Tout ce qu'il fait, il voit qu'il est nu. Il est mortel, il est errant, il est fugitif, il est envieux, il est meurtrier de son frère. Il est en souffrance multiple. Et il est contraint de travailler, puisque, alors qu'avant, il avait tout à sa disposition. Donc, c'est l'expérience fondamentale de la finitude du mal. L'homme est faillible. Il n'a pas la connaissance absolue. Il n'a pas la sagesse. Il n'a pas la sagesse qui lui permettrait l'accès à l'arbre de vie et à la vie éternelle. Alors, ces passages sont oubliés. Bon, c'est pour ça que voilà. Et notre mentalité, c'est vrai, ne supporte pas les prédications mortifères, elle ne supporte pas le principe de réalité. Et en même temps, c'est vrai qu'il convient d'annoncer le pardon, les bénédictions, la nouvelle alliance, que l'homme, comme dit Luther, est à la fois pécheur, justifié et sauvé. Et il faut qu'il y ait les trois. Si on dit que l'homme n'est que pécheur, on va avoir une morale épouvantable. Si on oublie qu'il est sauvé, ça ne sera pas bon non plus. Et voilà. Donc, dernière partie, je pense qu'il doit y avoir une sorte de dialectique entre l'homme et la création. La crise écologique est d'abord une crise spirituelle. C'est la redécouverte du problème du mal, de la mort, de l'absurde, de notre finitude, du non-sens. C'est l'absurdité d'une croissance infinie dans un monde fini. Et ça, quand on disait ça, quand on écrivait ça il y a 40 ans, je peux vous dire que c'était dur à expliquer. C'est la croissance infinie des moyens sans autre but que d'accroître les moyens. Produire plus, diversifier, certes, innover. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et il n'y a aucun autre indicateur que les revenus, que les indicateurs des revenus boursiers. L'arbre de la connaissance, en réalité, n'est pas atteint. On est dans une société tellement complexe qu'il faut des gens qui aient une maîtrise très, très vaste pour prendre des décisions politiques, économiques et autres. Il faut avoir des esprits très vastes, très ouverts pour essayer de se retrouver. Et quelqu'un comme Edgar Morin dit, je n'ai plus ma citation par là, mais il dit on a une telle avalanche de connaissances que pour faire la synthèse, ben évidemment, c'est de plus en plus difficile, il nous manque toujours un élément. Voilà. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que on nous dit souvent, mais les choix technologiques, un marteau, ça sert à tuer le voisin, ou alors enfoncer des clous, et construire sa maison. Oui, donc, très simple, d'accord. Bon, ça c'est la vision simpliste de la technique. En fait, c'est plus compliqué. Et quand vous avez une invention technique, une vraie invention, il y a le degré de dangerosité de cette invention, on va avoir trois choses. Un danger qui est connu, qui est évident, je passe. Deuxième hypothèse, on ne sait pas. Et on ne pourra savoir que si on lance des études extrêmement coûteuses, extrêmement diversifiées, sur le vivant, sur ceci, sur cela, et sur des générations de mouches, de souris ou d'autres choses, pour voir quel peut être l'impact sur le vivant. Mais ça, uniquement si on dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Troisième hypothèse, vous inventez quelque chose, et là, même si vous mettez le paquet, vous êtes une grosse société du CAC 40, vous êtes honnête, vous mettez des sous dans la recherche, y compris pour voir les effets négatifs possibles. Et là, même en cherchant beaucoup, de toute façon, vous ne pourrez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interrelations, des effets dominos, des effets cocktails, des effets ceci, des effets cela, et on ne peut pas savoir. Voilà. Donc, je signale la chose. Alors vous me direz, oui, mais il y a les remèdes. Alors les remèdes, toujours les mêmes. C'est l'éducation. Ok, mais qui va éduquer les éducateurs ? Pas si simple. Plus de science. Oui. Alors il y a le droit à l'environnement, régulé par le droit. Et c'est vrai que c'est un progrès d'avoir inclus le principe de précaution. Et nous avons gagné des procès grâce à ça. Inclure le principe de précaution dans la Constitution, on inverse la charge de la preuve. C'est l'industriel qui doit prouver que son produit ne sera pas nocif. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai aussi qu'on voit des magistrats, des tribunaux administratifs ou des tribunaux judiciaires qui n'hésitent pas. Je me souviens, Suez condamné à Pau pour l'usine d'incinération, et le président du tribunal disant « Je ne savais pas qu'à 3 km de cette salle d'audience, il pouvait y avoir une saloperie pareille. » L'usine qui avait été rebaptisée Cap Ecologica par la maire de Pau, bon, mais qui avait été, les gars, pour gagner plus d'argent, ils faisaient n'importe quoi, ils avaient débranché les électrofiltres et puis bon, pollué à fond. Et le président du tribunal qu'on appelle, il dit « Je suis désolé d'avoir une échelle de peine aussi faible, je mets au maximum, mais je ne peux pas aller plus loin, je regrette que l'échelle de peine ne soit pas… » Parce que faire payer 100 000 euros à Suez, alors qu'il y avait 20 ouvriers qui étaient là avec les dossiers du CHU de Bordeaux auxquels j'ai eu accès, avec des atteintes de la plèvre, c'était dérisoire. Voilà. Je vois des cas où nous avons gagné récemment encore et où il y a vraiment une prise en compte. Je vois aussi des modifications des lois et règlements pour faire passer plus vite les dossiers, et on déréglemente au contraire. Alors, c'est assez fou comme situation. Donc, l'éducation, le droit, ça ne suffit pas. La politique, on a vu ce que devenaient les ministres de l'environnement, on a vu le sort que pouvait être celui d'Alphine Bateau, viré à cause d'une compagnie pétrolière, de Nicolas Hulot, parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Voilà, donc aujourd'hui, il faut accepter une désescalade de la consommation, une désescalade de la croissance. J'ajouterai quelque chose qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Il faut accepter aussi de limiter la population. Alors, j'en reviens pas au pasteur Malthus, mais je pense qu'il y a un moment, 7 milliards et puis 14, et puis il y a un moment, il faudra se poser la question de limiter la population. Comment s'engager ? Il doit y avoir une dialectique à la fois, je pense, du dégagement et de l'engagement. Dégagement, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas foncer, mettre sa vie, sa famille, son couple en danger, parce qu'on y passe 10 heures par jour. Bien, c'est vrai. Il faut être désengagé aussi parce que il faut garder son recul, il faut garder sa vie privée, il faut garder sa vie intérieure et sa vie communautaire dans sa paroisse. C'est vrai. On est théologiquement, nous sommes dans le monde et nous avons à garder le monde, Saint Jean 15 à 19. Nous sommes dans le monde et pas de ce monde, est-il écrit aussi quelque part. Nous sommes dans le monde et pas de ce monde. C'est un verset important. On a autre chose à faire qu'à édifier la société de consommation. On n'est pas là pour ça. Alors, Karl Barth, par exemple, disait « On n'est pas là pour être les bons ingénieurs » de la création, on n'est pas là pour être de bons administrateurs, on est là pour autre chose encore. Il faut avoir le courage de le dire. Donc pas de concordisme, pas de... Mais on a à aimer ce monde. La création n'est pas un matériau expérimental à abandonner au seul plaisir des ingénieurs des sciences dures, aux seuls technocrates, aux seuls financiers. La création est un don, on a à la recevoir, à l'apprécier, à l'aimer, à la partager, à la transmettre. Alors des formes nouvelles d'engagement sont à rechercher au niveau individuel, collectif, ecclésial. Alors les modèles multiples. Alors je pourrais vous faire un schéma de gouvernance formidable de manière à enthousiasmer tout le monde, à ce que tout le monde les uns et les autres entrent dans des processus d'action et de réflexion collectif. Bon, je pense quand même qu'il faut réfléchir à ce que certaines paroisses protestantes avaient essayé de faire en reproduisant le Kirchentag allemand. Pendant un an, on se donne un objectif et toutes les paroisses travaillent. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ci, pour ça ? Et toutes les paroisses de la région ouest, après 1945, avaient travaillé, puis avaient fini par se réunir à Royan et puis prendre telle position, engagement d'action concret, hein, pour déboucher sur du concret. Parce que réunir les gens pour dire ça va mal, il faudrait que ça aille mieux, bon, c'est sympa, mais les gens vont très vite partir si on n'arrive pas à quelque chose. Donc, il y a le système des villes en transition, il y a l'expérience des communautés de base en Amérique latine qui ont beaucoup marqué quand même le pape et bien sûr les catholiques. Et je crois que c'est très important. Il y a aussi très fort les alliances entre agriculteurs et consommateurs, avec le système des AMAP. Il y a eu un moment UFC que choisir, les agrobio, les consommateurs. Il y a eu des tas de regroupements qui se sont faits. Il y a eu les villes en transition qui marchent dans certains coins assez bien. Alors il faut faire très attention à tout cela. Il y a les conventions citoyennes, il y a participé aux enquêtes publiques, mais c'est très vite épouvantablement technocratique. Il y a les consultations sur les grands projets. Il y a comment organiser donc ces rencontres œcuméniques. Je n'ai pas de solution à donner, toute prête évidemment. Et il y a d'énormes questions de gouvernance pour nos églises, y compris l'église protestante. Il est facile de refaire le monde donc avec des organigrammes, avec des business plans. Je n'ai rien à proposer. Nos églises doivent oser dire leurs convictions, leurs exigences. Et pour ma part, je suis bien sûr tout à fait disposé à travailler de manière œcuménique, comme ça m'arrive et ça m'est arrivé. Bien sûr, je crois qu'il faut en finir avec le triomphalisme prométhéen, en finir avec la prétendue neutralité de la raison. Cette neutralité de la raison a été invoquée par certains théologiens néo-luthériens qui évoquaient Luther. Luther disait, mais regardez, pour gouverner un pays, le grand Turc, il sait le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un roi chrétien. Les Turcs, ils gouvernent très bien. Donc, les affaires du gouvernement civil, l'Église n'a pas à s'en mêler. Alors là-dessus, moi je donnerai mon expérience. Paroisse d'Orthès, c'est pas grand-chose, paroisse d'Orthès, mais quand même. Quand on a vu une étude épidémiologique qui nous montre que sur le complexe de Lacq et autour, alors je passe, il y a eu tant de morts, une évaluation faite par des gens, profs de médecine à Bordeaux, quelque chose de sérieux, qui dit, bon, ça fait une surmortalité sur 30 ans, on estime, ça fait 120 personnes qui sont mortes en plus, et puis il y a une incidence sur tel type de maladie, sur telle tranche d'âge en particulier, pulmonaire, cancer, bon, etc. Cette étude a été cachée pendant 20 ans, puis un jour, on est auditionné par la Cour des comptes, et la Cour des comptes nous dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, ça et ça, puis il nous dit, il y a ça, ah bon, alors on se procure l'étude. Et ensuite, on voit que les élus ne bronchent pas, rien. Syndicats, rien. Il y a cinq élus qui vont dire, il faut aller plus loin, il faut reprendre l'étude publiée en 2002, on est en 2015 à l'époque, et il faut... On est en 2015, il faut la prolonger. Personne ne bouge. Et là, la paroisse d'Orthès a écrit au ministre, à ceci, à cela. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un vide. Alors, il y a des fois où ça arrive. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a des fois comme ça. Mais c'est vrai qu'habituellement, c'est le rôle des élus, des syndicats, des associations, du président du Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'a pas bougé non plus, qui habite à côté de chez moi, j'aurais pu aller, je le croise, je ne dis rien. Bon, voilà. Donc, il y a des moments où il faut, on est obligé de bouger, et voilà, un petit peu. Donc, pour toutes ces choses, c'est vrai qu'il y a cet appel qui a été donné, cet appel à la métanoïa, à la conversion, jusqu'où, à partir de quoi, comment, avec qui, moi je n'impose rien. Je rappelle simplement, j'étais à un colloque, c'était à la Cato, à Toulouse, j'étais invité. Et là, il y avait Lise Cohen qui était là pour la confession juive, et qui, dans une très belle conclusion, avait dit, il faut aussi savoir apprécier le jour de sabbat et jouir des délices de la création. N'oublions pas ce verset d'Isaïe, les délices de la création. Voilà, je vous remercie.
Pour les chrétiens, quelle urgence écologique ? Vous venez de suivre l'intervention de Michel Rode, théologien protestant laïque, rapporteur au synode protestant sur l'écologie, intervention enregistrée le 2 octobre 2021 lors de la journée œcuménique à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte.